vous écoutez Historama, l'histoire d'un jour. Aujourd'hui, le 24 avril 1916, les Pâques rouges de Dublin. En juillet 1913, une grève industrielle éclate à Dublin. Elle dure 6 mois. Elle préfigure les Pâques rouges de 1916. L'histoire de l'Irlande et de l'Angleterre est celle d'un antagonisme entre deux peuples, proches, voisins, qui ne reconnaissent entre eux aucun lien de confession, de tradition, de langue et de tempérament. Chaque époque depuis la conquête de l'Irlande au XVIe siècle par Henri VIII est marquée par des soulèvements suivis de mesures de répression génératrices à leur tour de nouvelles révoltes. Au début du XIXe siècle, l'acte d'union incorporant l'Irlande à l'unité britannique, Angleterre, Écosse, Irlande ou Union Jack, semble lui accorder une certaine souveraineté nationale. En fait, l'union marque surtout l'achèvement de l'unité britannique qui assure la mainmise de l'Angleterre sur un pays qu'elle traite en véritable colonie. Pourtant, vers la fin du XIXe siècle, un esprit plus libéral souffle à Londres avec la proposition du Home Rule présentée par le Premier ministre Gladstone au Parlement. En Irlande, les promoteurs du Home Rule sont Parel et Isaac Butt. Il doit permettre l'autonomie interne de leur patrie et constitue un compromis honorable et provisoire assurant la voie à une complète libération. L'Irlande possède désormais une double représentation, l'une à Dublin pour les questions intérieures, l'autre à Westminster pour toutes les affaires touchant à la souveraineté de l'Empire. Des catholiques peuvent même y siéger alors que, de tout temps, leur exclusion était la règle et que tout accès aux fonctions publiques est conditionné à l'appartenance à l'Église anglicane. Hélas, le remède est pire que le mal. Il crée la division jusque dans les rangs nationalistes où les habitants de l'Ulster, protestants et fortement anglicisés, demeurent favorables à l'Union et dans les autres régions, entre modérés partisans de la conciliation et extrémistes républicains groupés dans le Sinn Féin, expression qui en gaélique signifie « nous seuls ». Ces oppositions génèrent une longue suite de discordes, de soulèvements et d'attentats politiques. Dans les premiers temps, la Première Guerre mondiale opère une détente dans les relations entre l'Angleterre et l'Irlande. Plus de 200 000 volontaires irlandais contractent un engagement dans l'armée britannique. Ils se distinguent dans les Flandres et aux Dardanelles. Cependant, les Anglais interdisent la présence d'officiers catholiques dans les divisions irlandaises qui ne peuvent pas arborer leurs fanions ou des étendards aux couleurs nationales. Le ressentiment grandit parmi les Irlandais. Les nationalistes jugent que l'heure de la lutte a sonné. La situation critique des armées alliées au printemps 1916 rend l'Angleterre plus vulnérable. Les Irlandais sollicitent du gouvernement allemand l'envoi d'armes. Il consent à fournir 20 000 fusils Mauser transportés par un chalutier commandé par le capitaine Kurt Spindler qui fait face à la Royal Navy au large de la côte de Kerry. Refusant de livrer sa cargaison, il saborde son embarcation. Malgré cet aléa, le lundi 24 avril 1916, 1200 volontaires répondent à un ordre tardif de rassemblement en vue d'une prétendue manœuvre dans les rues de Dublin. Peu avant midi, des coups de feu retentissent. Guidés par leurs officiers, de petits groupes de militants se dirigent vers l'hôtel des postes dont ils s'emparent facilement. Le bâtiment est seulement gardé par deux sentinelles armées de fusils non chargés. Le drapeau vert, blanc et orangé de l'État libre d'Irlande est déployé sur la façade. Une proclamation nationaliste est lue « Au nom de Dieu et des générations mortes » dont elle reçoit la vieille tradition nationale. L'Irlande, par notre voix, appelle ses enfants à son drapeau. Soutenu par nos frères exilés en Amérique et par nos vaillants alliés d'Europe, nous déclarons que le droit du peuple irlandais à la propriété de l'Irlande et à la libre détermination de sa destinée est souverain et imprescriptible. Les insurgés marchent ensuite vers le château où réside le vice-roi et siège le gouvernement général. Ils le prennent sans véritable combat, mais l'abandonnent subitement sans raison. Ils occupent également les gares, le palais de justice, la faculté de chirurgie et plusieurs usines. Alertées, les troupes anglaises avancent maintenant vers le centre-ville. Elles se heurtent aux renforts nationalistes venus de la campagne. Les combats durent 5 jours, faisant de nombreux morts et blessés. Retranchés dans le collège de la Trinité et dans l'hôtel Shelbourne, qui domine St. Stephen Street, les contingents anglais débarqués à la suite du général Sir John Maxwell repoussent les assauts. Reprenant l'initiative, ils délogent les insurgés de leur position et avancent entre les immeubles incendiés, parmi les ruines fumantes. Ils tirent sur les hommes armés, mais aussi sur les pillards, les femmes, les vieillards et les enfants. Cernés, les insurgés épuisent leur ultime munition avant de capituler. La rébellion se solde par une lamentable défaite. Les combats font 3000 tués ou blessés. Environ 3500 nationalistes sont arrêtés, dont Thomas Clark, président du gouvernement provisoire irlandais, et les signataires de la proclamation lue devant l'hôtel des postes. Détenus dans un parc public, les prisonniers attendent sous une pluie glaciale le jugement de la cour martiale qui les condamne à mort. Le 3 mai 1916, les 7 condamnés à la peine capitale sont passés par les armes. Les autres, dont Éamon de Valera, qui deviendra le premier président de la République irlandaise, sont incarcérés. Confrontés à la détermination des nationalistes irlandais, l'Angleterre cède en 1921. Le traité de Londres conduit à la proclamation de l'indépendance de la majeure partie de l'île qui devient la République de l'air. Nous retrouvons Historama dans un instant pour la chronique littéraire. Un jour, 3 livres, mais avant cela, détour par la chanson avec Patricia Cass, Mademoiselle chante le blues.
Il y en a qui lèvent des gosses au fond d'un HLM. Il y en a qui roulent leur bosse du Brésil en Ukraine. Il y en a qui font la noce du petit Angoulême. Il y en a même qui militent dans la rue avec 30 ventres. Il y en a qui ont pas flu de jouer les sex symboles. Il y en a qui vendent l'amour au fond de la bagnole. Mademoiselle chante le blues. Soyez pas trop jalouse. Mademoiselle voit du rouge. Mademoiselle chante le blues. Il y en a 8 heures par jour qui tapent sur des machines. Y'en a qui font la cour masculine, féminine. Il y en a qui lèchent les bottes comme on lèche des vitrines. Il y en a même qui font du cinéma qu'on appelle Marilyn. Mais Marilyn Dubois sera jamais dans ma jean. Faut pas croire que le talent c'est tout ce qu'on s'imagine. Mademoiselle chante le blues, soyez pas trop jalouse. Mademoiselle veut du rouge, à vous. Elle a du gospel dans la foi, elle y croit. Bonne sœur, avocate, pharmacienne. Y'en a qui ont tout dit quand ils ont dit je t'aime. Y'en a qui sont vieilles filles du côté d'Angoulême. Y'en a même qui joue femme libérée, qui joint et cardinal, qui mélange vie en rose et marche épinal. Se faire du bien sans jamais faire de mal. Mademoiselle chante le blues, soyez pas trop jalouse. Mademoiselle veut du rouge, encore à vous. Elle a du gospel dans la voix, elle y croit. Mademoiselle chante le blues.
Écoutez Historama, l'histoire d'un jour, la chronique littéraire, un jour, trois livres avec en fil rouge la Seconde Guerre mondiale. Nous commençons par De Gaulle et Pétain, c'est signé Pierre Servant aux éditions Perrin, spécialiste des questions militaires, longtemps enseignant à l'école de guerre. Pierre Servant étudie la relation singulière, complexe et énigmatique entretenue par Philippe Pétain et Charles de Gaulle. Je lui laisse le soin de présenter son ouvrage. De l'affection réciproque à la séparation, de la séparation à la déchirure, la relation Pétain-De Gaulle fut celle de deux visionnaires au destin en miroir, frayant avec les sommets et les gouffres. Elle illustre quelques-unes des pages les plus glorieuses et les plus désastreuses de l'histoire de France. Rarement duel au sommet aura divisé un peuple si durablement et si profondément. Le choc de deux mêmes, de deux légitimités hautaines, de deux orgueils blessés par l'incompréhension des autres et par des promotions militaires tardives. Ils se sont tant aimés pour ces douleurs muettes partagées d'un regard, pour cette griserie des altitudes auxquelles les médiocres n'ont pas accès. Mais en 1940, à l'heure décisive, chacun est convaincu d'incarner seul la France. Le vainqueur de Verdun contre l'homme du 18 juin. Œdipe de retour, ils se sont alors déchirés, tout en conservant secrètement le reliquaire de leur affection perdue. De Gaulle et Pétain, c'est signé Pierre Servant et c'est publié aux éditions Perrin. L'appel du 18 juin d'Aurélie Luneau aux éditions Flammarion. Aurélie Luneau raconte avec bonheur l'histoire de l'appel du 18 juin. Étrangement, le récit débute avec le décès de Charles de Gaulle en novembre 1970. Il fait ensuite une large place au parcours du grand homme jusqu'à la déclaration de la Seconde Guerre mondiale. L'auteur revient ensuite sur les conditions de ce message historique dont les auditeurs furent peu nombreux. Elle évoque la censure et les obstacles rencontrés par le général et l'écho de sa voix à travers la France. Elle présente également les commémorations de cet événement historique du vivant de son acteur principal. L'appel du 18 juin, c'est signé Aurélie Luneau et c'est publié chez Flammarion. Juin 1940 de Gilles Ragache aux éditions Perrin. Spécialiste de la Seconde Guerre mondiale, Gilles Ragache nous restitue les semaines qui conduisent à la signature de l'armistice entre la France et l'Allemagne le 22 juin 1940 dans le célèbre wagon de Rotonde. Il revient sur la terrible offensive de l'armée allemande qui emploie avec efficacité les unités blindées. Il évoque les tergiversations des dirigeants politiques et la faiblesse du gouvernement présidé par Paul Reynaud. Il relate la débâcle et l'exode de la population française. Il raconte l'entrée des Allemands à Paris. Il présente les conditions de l'armistice avec le Reich et l'Italie de Benito Mussolini. Enfin, il rappelle l'attitude du général de Gaulle. C'est un récit plaisant et érudit qui retiendra, je l'espère, l'attention des auditeurs. Juin 1940 de Gilles Ragache, c'est publié aux éditions Perrin. Ainsi s'achève cette émission Historama. Merci à Lucas qui l'a réalisé. Et c'est en chanson que nous allons nous quitter avec Patricia Cass qui nous chante d'Allemagne.
J'écoute la pluie en vacances, Allemagne, où j'entends l'orgue en silence, Allemagne, où j'ai souvenir d'enfance, où j'ai des souvenirs d'enfance, Leninplatz et Anatole France, Allemagne, l'histoire passée est une injure, l'avenir est une aventure d'Allemagne. Je connais les sens interdits, je sais où dorment les fusils, je sais où s'arrête l'indulgence. Envie de Zeyn, Lili Marlène, reparlez-moi des roses de Göttingen. Je vous rassure, j'ai des histoires d'amour sincère, je plane sur des musiques d'Apollinaire, d'Allemagne, le romantisme est plus violent, les violons jouent toujours plus lent, les valses viennoises ordinaires. Envie de Zeyn, Lili Marlène, reparlez-moi des roses de Göttingen qui m'accompagnent dans notre Allemagne. Alors où Colombie retour s'éloigne, de quel côté du mur la frontière vous rassure. Envie de Zeyn.